Voilà, Paris, ça. Oui, ça va. Alors, la caméra passe.
What is this, Connor? Easy, easy, old man. She's not hurt?
No.
No wounded,
sir. Che fai? Gradisci?
Ma sta fatto, che fai?
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Che non si fa che dici? Come fa che dici?
Bonjour et bienvenue à Cinémascope pour ce presque printemps qui arrive tout doucement aux portes de l'Ardèche du Sud. Et puis le printemps arrive avec une bonne récolte de films, une récolte assurée un petit peu à Aubenas, puis un petit peu à Privas. On diversifie un petit peu nos cueillettes. Et donc, 5 films au total, et pour les présenter, ben, nous sommes deux. Beaucoup de travail pour Didier.
Bonjour. Mais c'était avec plaisir, bonjour.
Et votre serviteur, Olivier. Je commence, alors, les 5 films, peut-être que...
Et Sylvain, qui nous met sur les ondes.
Salut.
Pardon, Sylvain. Je suis tellement habitué à Sylvain qu'il fait partie de sa table de mixage, d'une certaine manière, pardon. Oui, je vous donne la liste des 5 films pour que vous puissiez vous y retrouver. Ce sera Une vie de James House, puis ce sera La salle des profs, Das Lehrerzimmer de Iker Zatak, Comme un fils de Nicolas Boukrieff, Débâcle de Verle Bettens, et enfin Le retour du nom de la rose, naturellement, de Jean-Jacques Haneau. Des retrouvailles qui font plaisir, Didier nous en dira plus. Pour ma part, je garde encore une petite minute la parole pour vous parler, et je viens de le nommer, Une vie de James House, qui nous fait le plaisir et nous permet de retrouver Anthony Hopkins au sommet de son art. Pouvons-nous dire Une vie? Eh bien, c'est celle de Nicolas Winton. Alors, cette vie se résume peut-être en 3 ou 4 dates. 1938, nous sommes à Prague. Hitler vient de lâcher ses troupes sur la Tchécoslovaquie, récupération de la zone des Sudètes. Et bien entendu, c'est extrêmement dangereux d'être opposant politique et naturellement d'être juif à Prague à ce moment-là. Nicolas Winton y est en visite suffisamment longtemps pour prendre la mesure de la catastrophe, pour prendre la mesure de la misère absolue dans laquelle se trouvent les réfugiés. Malheureusement, l'histoire récente, l'histoire actuelle, l'histoire d'aujourd'hui nous en donne assez d'images. Je n'ai pas besoin d'écrire. Et ce Nicolas Winton rentre à Londres, laissant ses camarades à Prague, et commence avec sa mère à organiser le sauvetage d'un maximum d'enfants juifs. Il parviendra à en sauver 669 grâce à 8 trains. Alors c'est une entreprise absolument extraordinaire, puisque pour chaque enfant il faut trouver un visa, il faut trouver la somme d'argent nécessaire à le faire voyager en train jusqu'à Londres. Et il faut fournir aussi la somme qui lui permettrait de revenir, parce que les Anglais ne veulent pas accueillir des enfants qui n'auraient pas au moins les moyens de repartir de là où ils viennent. Et il faut trouver une famille d'accueil. Eh bien, Nicolas Winton arrive à trouver donc plusieurs centaines de familles avec l'aide de sa mère. Il arrive à décrocher les visas et à rassembler les sommes dans des formes de cagnottes. C'est absolument extraordinaire. Deuxième date, 1988. Des gens de la télévision anglaise découvrent son histoire, probablement à travers le livre écrit par sa fille, Barbara Winton, « If it's not impossible », si ce n'est pas impossible. alors on le fait. En 1988, donc, il découvre cette histoire, il décide de faire un show. Alors, c'est That's Life, c'est une émission assez populaire dans laquelle ils font passer Nicolas Winton et ça va permettre des retrouvailles avec des personnes qu'il a contribué à sauver. Ce qu'il faut savoir, et j'en finirai peut-être avec ça du point de vue de l'histoire, ce qu'il faut savoir, c'est que cet homme est resté silencieux par modestie, mais également parce qu'il a été toute sa vie torturé par le sentiment de ne pas en avoir fait assez. C'est donc un homme qui, toute sa vie, après avoir fait ça, a souffert d'une culpabilité. Parce que le neuvième train n'est jamais parti. Et il vit avec ce poids, et l'émission de télévision, les retrouvailles, vont lui permettre de sortir de sa culpabilité, parce qu'on va lui mettre sous les yeux les 6000 personnes qui vivent finalement grâce à lui, c'est-à-dire enfants et petits-enfants, les gens qu'il avait sauvés. Anthony Hopkins, je l'ai dit déjà, est extraordinaire. Le film est un film classique de par son montage, sa photographie. L'histoire est extrêmement bien racontée. On est embarqué. Et comme le dirait notre camarade René, c'est un film utile parce qu'il met le doigt sur ce que c'est que choisir de faire ou de ne pas faire quelque chose le moment venu. Une vie, donc, celle de Nicolas Winton, qui mourra en 2015 à l'âge de 106 ans, tout de même. Nous restons, transition un petit peu osée de ma part, nous restons dans la zone germanique avec Das Lehrerzimmer, la salle des profs, bien entendu.
Guten Tag. Hat aber nichts mit Magie zu tun, sondern Mathematik. Frau Kuhn, ich habe ein riesiges Problem.
Ey, jetzt lass doch mal los!
Haben Sie einen Beweis? Wir können mit dir nicht darüber reden, Oskar. Hin oder her, aber der Junge ist doch total verwirrt. Sehen Sie das nicht?
Wir sind diejenigen, die verwirrt sind.
Die Eltern haben doch ein Recht darauf zu erfahren, was wirklich passiert ist.
Ich kann schon verstehen, dass das alles ein bisschen viel für Sie ist. Vielleicht sind Sie auch überfordert.
Hey! Bespitzelung. Denunziation, Verleumdung, Rufmord.
La salle des profs, donc, de Iker Satak. Un fait divers, au départ, un vol, si j'ai bien compris.
Oui, alors la semaine dernière, on avait un film italien, Il reste encore demain, qui a été un phénomène en Italie, on disait, avec 5 millions d'entrées, ce qui est très rare pour un film italien dans ce pays. Et là, c'est un peu la même chose, mais en Allemagne.
Ah bon ?
C'est un énorme succès, énorme succès. Et d'ailleurs, le film, on n'a pas beaucoup parlé, mais le film était présent aux Oscars dans la compétition meilleur film international, ce qui est quand même si on n'obtient pas le titre, c'est quand même déjà... très, très impressionnant. Donc oui, effectivement, on est dans un collège allemand, collège tout à fait banal, ni un collège de gosses de riches, ni un collège qui est difficile, voilà. Donc tout va bien, sauf qu'il y a effectivement des vols en série dans ce collège. Et le personnage principal est une jeune prof de maths, d'une classe de 5e, maths et éducation physique et sportive, ce qui est assez curieux.
C'est une spécialité allemande.
Voilà, donc tout va bien, elle a vraiment sa classe dans sa main, ça se passe très très bien et tout, jusqu'au jour où la direction du collège adopte, on va dire, des méthodes un peu policières par rapport à certains élèves suite à ces vols en série. Donc elle est un peu révoltée par ça et elle va, elle, mener sa propre enquête pour essayer de déterminer ce qui se passe. Et ce qu'elle va découvrir va mettre tout le collège en ébullition. À la fois ses collègues et à la fois ses élèves et les élèves en général. Et là, le film devient presque un thriller. Et on a une tension qui monte petit à petit. Et bientôt, cette jeune enseignante va être totalement débordée. Alors elle croit bien faire. Donc elle va multiplier ses interventions. À chaque intervention, elle s'enfonce un petit peu plus. Quoi. C'est vraiment très, très... On est accroché au fauteuil. Donc en termes de mise en scène, le film est tourné au format 4 tiers, hein, c'est-à-dire presque carré. Donc les personnages sont enserrés, enfermés dans cette enquête qui devient quasi kafkaïenne au fur et à mesure du temps. La bande originale participe à l'ambiance avec... Alors, choisir, c'est pas Hitchcock, hein, mais des sons de violon assez lancinants comme ça qui nous agacent un petit peu. Et le scénario, en fait, a été écrit comme une sorte de huis clos. Par exemple, on ne connaît absolument rien de cette enseignante, de sa vie, hors le collège. On ne sait pas si elle est en couple ou où elle habite, ce qu'elle mange, enfin, etc., etc. C'est vraiment, tout est axé dans ce huis clos collégien. Alors, ça m'a beaucoup intéressé, à la fois sur le sujet et à la fois sur la mise en scène, et je n'ai pas pu m'empêcher de faire une comparaison avec nos films français qu'on a, nous, sur les collèges, enfin, les établissements scolaires d'une façon générale, et que j'ai trouvé, par rapport à ce film, assez conte de fées, quand même. Hein. Je me suis rappelé de l'esquive de Kechiche, Entre les murs de Laurent Canté, Les héritiers, Un métier sérieux, pour parler d'un film qui est sorti l'année dernière. Donc, qui sont des films tout à fait honorables et intéressants, mais ça fait un peu figure de conte de fées par rapport à ce qu'on voit
c'est
ici.
C'est très, très lisse. Hein,
C'est très lisse. Oui, c'est très lisse. Moi, je me souviens de l'esquive, je dis, bon, c'est joli, quoi, mais c'est tellement déconnecté de la réalité. Quoi, voilà. Alors on a une fin ouverte, et cette fin ouverte, comme tout le film, en fait, pose des questions qui sont relatives à notre société tout entière, sur le civisme, l'éducation, les réseaux sociaux, les relations au travail, la xénophobie, bref, toutes ces choses qui peuvent nous interpeller aujourd'hui sont dans ce film allemand que je vous conseille fortement d'aller voir. C'est à Privas cette semaine.
À Privas, donc. Et en t'entendant parler, donc du coup, je n'ai pas pu préparer, mais tu m'as fait penser à un autre film allemand qui se déroule en milieu scolaire, c'est La Vague.
Voilà, j'ai pensé évidemment à La Vague. Alors c'est un peu différent parce que La Vague, c'est une classe qui s'isole et qui crée une espèce de secte qui va... Oui. Voilà, c'est un peu différent, mais effectivement, le décor est le même, je dirais, et je suis exactement comme toi, c'est-à-dire que j'ai pensé à La Vague, même si les propos sont différents, j'ai pensé à ce film, qui est un film qui est toujours d'actualité d'ailleurs.
Oui, complètement. Et je crois que les Allemands sont évidemment, c'est lié à leur histoire, hein, très très sensibles à toute espèce de dérive xénophobe. C'est-à-dire, en même temps, évidemment, ils ont le problème de l'extrême droite, en particulier dans l'ex-Allemagne de l'Est, par exemple. Mais d'un autre côté, ils ont une capacité de réponse à ces tentations droitières qui est énorme, puisque vous pouvez avoir jusqu'à 2 millions d'Allemands qui descendent dans les rues pour manifester contre les thèses qu'on déteste tous ici, je crois. On va rester un petit peu en salle des profs. Enfin, on va sortir, mais en compagnie d'un prof, pour un film que j'ai été voir, pour ma part, à Aubenas. Il s'agit de Comme un fils.
T'as planqué quoi sous ta veste?
J'attends que t'as...
Ah, il rend ce qu'il a pris, c'est tout.
Arrête.
J'ai l'impression que j'arrive plus à les comprendre. Je sers à quoi? Je leur apporte quoi, moi?
Tu déroules ton programme, et tant mieux pour ceux qui suivent.
Mais j'ai eu envie d'être prof pour penser comme ça, moi.
rapport police?
Non, je ne sais pas appeler la police.
Et tu veux que je te dise, c'est un gamin qui est tabassé, il a plein d'hématomes. Enfin, vous savez, ces mômes-là, ils sont quasiment impossibles à identifier.
Vous dites là-tu?
I know bring cash, he punish.
Who punish you?
My uncle.
Moi, j'aimerais savoir pourquoi vous tenez tant à vous occuper de lui.
C'est normal, vous auriez fait quoi à ma place? Je n'ai pas le rejeter à la rue. You can sleep here tonight, it's possible.
Je suis pas pute. I don't sleep with you.
Yes, good.
Donc je fais quoi alors? Je le relâche?
Il est malin, il est attentif, il est... It's very good.
Je le laisse retourner chez lui pour qu'il se fasse tabasser, c'est ça?
When you know how to read, when you know how to write, il pourra aller à l'école, ce serait une chance pour lui. You are in the world. J'ai le sentiment qu'il est en danger, cet enfant.
La question, c'est de savoir comment on l'aide. Parce que la manière dont vous allez l'aider...
Dis-lui qu'il faut qu'il arrête de taper Victor.
Ça peut encore plus le mettre en danger.
C'est Victor, il a besoin de toi.
Comme un fils de Nicolas Boukrieff, ce réalisateur explique dans la presse pardon, que ce qu'il a arrêté avant de se lancer dans la création de ce film, c'est la situation des professeurs et la situation de leurs élèves en général, c'est-à-dire un constat d'un service public qui est laissé un peu à l'abandon, comme le système de santé, victime de logiques libérales, de logiques commerciales, qui sont étrangères à l'esprit de service public qui doit animer donc ces institutions. Et puis, en creusant donc ce personnage de prof qui en a marre et qui est joué ici merveilleusement par Vincent Lindon, en creusant ce personnage, il a découvert une autre problématique, celle d'enfants qui, alors justement, sont non seulement à l'écart du système scolaire, mais même à l'écart de la société dans sa totalité. Et là, il s'agit d'un petit Rom, Victor, qui est obligé par son oncle à voler. Et il doit ramener du cash tous les soirs, sinon c'est plus que des claques. Voilà. Donc, c'est la rencontre entre un professeur, Vincent Lindon, et ce jeune. Donc, ce sont deux problématiques qui se rejoignent finalement. Une problématique plus strictement service public, enseignement, éducation, et une problématique plus migrants, difficultés économiques, etc. Ces deux problématiques se rejoignent. On le comprend bien tout à fait naturellement, puisque pas besoin de sortir de Sciences Po pour savoir que tout est lié ici et que c'est bien un modèle économique, un modèle social et une culture qui trouve depuis un moment déjà ses limites ici. Alors moi, j'ai effectivement, comme ancien prof, j'ai beaucoup aimé ce personnage de prof qui... Alors, le titre, je crois qu'il est un petit peu racoleur, parce qu'en fait, Vincent Lindon ne peut à aucun moment être suspecté de vouloir faire de Victor son fils. Il a à son égard l'attitude que doit avoir quelqu'un qui vient au secours de quelqu'un, et il se trouve que cette personne qui a besoin d'aide est en plus un jeune qui a besoin d'apprendre. Donc, il lui apprend. Et il lui apprend en particulier... C'est évident, il apprend à lire. Et j'ai trouvé les scènes autour de l'apprentissage de la lecture particulièrement réjouissantes et particulièrement bien faites. Et puis, il y a tout le volet social, parce que le gamin va être accueilli par une association qui se substitue évidemment à l'État pour venir en aide à ses enfants. Et il y a un autre personnage de bénévoles d'association qui s'occupent de ce gamin et qui complètent le tableau de l'aide générale qu'on peut apporter à un enfant qui en a véritablement besoin. Donc, parce que moi, l'autre film que j'ai été voir pour cette semaine, donc c'est Une vie, j'ai envie de dire encore une fois un film bien fait, une histoire bien racontée, bien jouée. Vincent Lindon est très généreux, comme d'habitude.
À son habitude.
À son habitude, très généreux. C'est d'ailleurs la remarque que m'a fait un camarade qui sortait de la projection en même temps que moi. La générosité de Vincent Lindon, qui évidemment porte ce personnage pour faire de ce film encore un film utile pour se diriger nous-mêmes un petit peu dans cette débâcle que nous économique et j'ai pas fait exprès économique et sociale.
C'est une belle transition.
Ah ouais, mais j'ai même pas fait exprès. Donc le film dont nous allons parler très différent, très énigmatique, j'en dirai un mot après vous l'avoir présenté à travers le film annonce.
Just a second to wait. Innocence vanished into thin air.
Poison. Ik heb wel eens vrolijkheid. Ik heb er alleen meisjes van
onder. Ik ben een meisje.
Andere meisjes.
Oké.
Wat is het ergste dat je ooit hebt gedaan?
Die
moeten we hebben voor dat spel. Kom.
Broken dreams flying around.
Papa.
Eet fatsoenlijk!
Nee, maar allebei gevoelige beestjes.
Heb je zin om een spelletje te spelen?
Als ze uitsluiten of ze doen stomme dingen, dan kom ik mij vertellen.
Eva?
Maar Eva, schat, kijk dat ik je helemaal niet herkend.
Wat heeft hij gedaan?
We doen niks verkeerd, hè. Het is gewoon een spel. We vinden die meisjes gewoon mooi.
Débâcle de Verle Bettens. Je parlais d'énigmes parce qu'effectivement, le peu que j'ai pu accrocher de ci, de là sur ce film m'invite à faire un pitch, effectivement, un lancement un peu dans l'énigme. Une jeune femme roule vers apparemment son enfance, sous le début de son adolescence.
On peut dire ça, oui.
Voilà. Et dans le coffre de sa voiture, il y a un bloc de glace.
C'est ça, un énorme bloc de glace.
Donc, qui va fondre forcément, donc d'où débâcle.
Qui va pas fondre maintenant, parce qu'il est dans un récipient isotherme qui fait que, bah, évidemment, il fond. Enfin, lancement. À très très petite allure.
D'accord. Alors, moi, j'étais avec cette énigme. J'ai été évidemment voir le film annonce, entendre la musique. Encore une fois, à l'instant, et Didier me dit que la musique est très bien choisie pour le film annonce, donc je laisse Didier s'expliquer.
Et bien évidemment, je ne vais pas raconter à quoi sert ce bloc de glace. Pour ça, il faudra aller voir le film. Bon, c'est un film flamand, hein, comme on a cru l'entendre, ouais. On ne peut pas se tromper, de Verle Bettens, comme tu l'as dit, qui est une femme beaucoup plus connue comme actrice. C'est son premier film de réalisateur. Et on peut citer, je crois que tous ceux qui ont vu ce film ne l'ont jamais oublié, Alabama Monroe. Donc où elle joue le rôle féminin principal, celle de la mère qui perd son enfant. C'est adapté d'un roman d'une écrivaine que moi je ne connais pas, qui s'appelle Lise Speed, qui est parue en 2018 et qui, semble-t-il, a connu un très très grand succès. Voilà. Donc, et nous sommes effectivement avec Eva, qui est une jeune femme d'une trentaine d'années, qui est pas bien du tout dans sa peau. Elle est quasiment solitaire. La seule personne à qui elle est très attachée, c'est sa sœur cadette. Mais elle m'aime, bon oui, même si elle aime beaucoup sa sœur et tout, elle a sa vie à vivre et elle ne peut pas complètement répondre à cette demande. Et par contre, elle refuse absolument de voir ses parents. C'est vraiment, elle est complètement coupée de tout. Elle a quitté la ville de son enfance il y a très longtemps, elle n'y est jamais retournée. Par contre, elle va y retourner là, et donc c'est l'histoire du film, entre autres, en s'invitant à travers les réseaux sociaux à une commémoration de la mort d'un ami d'enfance donc qui était décédé alors qu'elle-même était encore enfant. Et elle part, comme tu l'as justement dit, elle part avec un énorme bloc de glace dans sa voiture et on se demande bien à quoi ça va servir et pourquoi. Donc ce film est construit entre passé et présent. Donc nous sommes dans le présent et incessamment nous avons des flashbacks sur l'enfance et la préadolescence de Eva.
Il y a une enfant jouée par Rosa Marchand.
Qui est fabuleuse.
Qui est absolument fabuleuse. Le temps du film annonce,
Elle est extraordinaire, elle doit avoir 13 ou 14 ans, cette gamine, elle est vraiment extraordinaire. Donc on assiste à ces jeux d'amitié, ces jeux d'enfance, ces amitiés parfois toxiques, ces jeux qui peuvent dégénérer, des choses comme ça. Et donc on a une tension qui monte très fortement en se demandant comment ça va terminer cette histoire. Et on sent le drame monter. On sent que effectivement il y aura un drame au fur et à mesure que le récit avance. Donc on n'est pas dans une comédie là. Hein. On est vraiment dans un film très noir, très glaçant sur un traumatisme de l'enfance qui n'a pas été surmonté par cette jeune femme. Et on ne sait pas ce qui est le pire dans cette histoire. C'est-à-dire le ce qui arrive réellement d'un côté ou la réaction empreinte de mépris et de lâcheté du monde adulte. On a quand même, il faut le dire, on a quand même deux séquences dans le film qui sont absolument révoltantes. Moi, j'ai vu ça, j'étais collé au fauteuil en disant « mais on a envie de donner des gifles, quoi. C'est pour ne pas dire plus ». Voilà, donc un film très très noir, mais vraiment très très intéressant, je crois. Et je terminerai sur un petit texte de la réalisatrice qui dit avoir fait ce film pour tous ceux qui enfouissent leur souffrance au plus profond d'eux-mêmes, à un endroit où personne ne pourra les deviner et d'où elle les dévore peu à peu. Un mutisme extérieur cache souvent un esprit qui hurle à s'en briser la voix. C'est nous les autres qui ne l'entendons pas. Ou peut-être qu'ils ne faisons pas l'effort d'écouter. Et je trouve que ça résume parfaitement le film, parce que cette femme, dans la première partie du film, où on ne sait pas trop, elle ne nous est pas forcément sympathique. Elle est fermée, sourit jamais, elle est en demande. Voilà. Et je crois que ça éclaire énormément le film, et que c'est un film, à la fois un très bon film de cinéma, et à la fois un film utile aussi.
D'accord, on voit pas beaucoup de choses encore, là, du point de vue de la narration, mais on sent que ce bloc de glace, c'est vraiment la métaphore. Voilà.
Et, oui, alors c'est une métaphore, mais c'est pas seulement une métaphore. D'accord. C'est-à-dire qu'il est. Alors, je vais faire un peu de suspense, il est réellement, matériellement, au centre du film.
D'accord. J'ai la curiosité encore plus piquée. Voilà. Alors, avant de se quitter, il nous reste un petit peu de temps pour évoquer deux classiques en un. Enfin, bon, un classique de la littérature, bien sûr, d'Umberto Eco, Le nom de la rose, classique de la littérature italienne et au-delà. Et son avatar cinématographique, Le nom de la rose, de Jean-Jacques Haneau, qui se voit aussi à Privas également, à l'occasion de sa ressortie.
Voilà, c'est un film qu'on ne pouvait plus voir depuis très longtemps pour de histoires toujours d'ayant droit, etc. L'histoire de sous, en fait, hein, voilà, qu'on trouvait même plus en édition DVD, ouais. Rien et tout, et qui ressort après une restauration 4K avec le grand, grand plaisir de retrouver le chef-d'œuvre de Jean-Jacques Haneau. Je veux dire, ça, c'est indiscutable. C'est un très, très grand film qui a eu une carrière mondiale et qui fait partie de l'histoire du cinéma aujourd'hui. Alors, Umberto Eco, à la base, et on en parlait tout à l'heure, pas une adaptation, selon Jean-Jacques Hano lui-même, un palimpseste. Oui. Alors, pour ceux qui n'ont pas leur dictionnaire sous les yeux, un palimpseste est un parchemin dont on a effacé l'écriture pour écrire par-dessus un nouveau texte. Et je trouve que c'est Jean-Jacques Hano qui avait dit ça donc à la sortie du film en 86, et je trouve que c'est très, 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 très réel, et c'est exactement ça. Donc, on est au début du XIVe siècle, où un père franciscain, Guillaume de Baskerville, et son jeune novice, Adso, arrivent dans une abbaye bénédictine du nord de l'Italie, où des moines trouvent la mort dans d'étranges circonstances, et il va mener son enquête. Alors, il n'y a pas grand-chose à la base qui va permettre d'avoir des indices, sauf que tous ces moines qui sont morts ont un pouce qui est tout noir. Donc, on ne sait pas bien ce que c'est, sauf que on va découvrir très très vite que cette abbaye en fait cache énormément de secrets, que les moines qui l'habitent sont pas des rigolos, par exemple pour eux le rire est quelque chose de quasi satanique, quoi, hein. C'est assez lugubre, notre père franciscain et son novice vont remuer tout ça avec beaucoup de bonheur pour nous spectateurs. Alors le film, scénario extraordinaire, interprétation magnifique, donc Sean Connery qui joue ce père franciscain, Christian Slater qui joue le jeune novice, donc qui va avoir son heure de, enfin qui a fait une carrière après, mais qui va vraiment exploser un petit peu plus tard dans True Romance. Ah oui, qui est un film un peu culte maintenant, qui a joué Churchill aussi en 2003. C'est un quasi huis clos. C'est un quasi huis clos en forme de thriller moyenâgeux qui a été tourné dans un monastère cistercien en Allemagne et qui allie drame, histoire et humour. Donc une grande fresque, un grand spectacle. Alors on a parlé de Sean Connery et de Christian Slater, mais il ne faut pas oublier non plus que dans le film, il y a eu Pléiade, donc Michael Lonsdale, F. Murray, Abraham et beaucoup d'autres, et que on n'en parle pas souvent d'une façon générale, et même dans cette émission, des directeurs photos. Et là, on a une photo absolument magnifique de l'Italien Tonino Delli Colli, qui par ailleurs a fait pratiquement tous les films de Pasolini, de Sergio Leone, Dino Rizzi, Fellini, Polanski, et j'en passe, et des meilleurs, et qui nous fait, là, c'est une photo sombre et froide dans cette abbaye qui est absolument magnifique et qui vraiment amène énormément au film. Voilà, donc, un chef-d'œuvre total, qu'on ne pouvait plus voir depuis très longtemps, et qu'on peut voir, s'il vous plaît, sur le grand écran, cette semaine, au cinéma de Privas.
Ça doit faire du bien, quand même. Moi, j'ai toujours ce souvenir de ce film, que j'ai revu quelques fois depuis sa sortie, et à sa sortie, c'est à un moment donné, avec son disciple, il traverse le monastère, et puis ils entendent un moine qui tient des propos à peu près incompréhensibles. Alors le disciple demande au maître: « Maître, mais quelle langue parle-t-il ? » Il répond: « Toutes. »
Voilà. Oui, et puis on peut dire aussi qu'il y a une scène de sexe qui est une des scènes de sexe les plus torrides du cinéma français.
Oui, tout à fait. Alors, bon, n'en parlons pas, c'est le printemps et ma curiosité est déjà piquée, alors on va se laisser. Voilà, je vous remercie toutes et tous de nous avoir écoutés pendant ce moment de cinéma. Il me reste à vous souhaiter un excellent week-end et à vous dire à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.